études qui touchent le temps d'écran des enfants. On va l'écouter.
Fait par la place des écrans, notamment chez les tout-petits. Parce que, en tout cas, nous, des enseignants, des professeurs des écoles qui nous disent que même à 5-6 ans, on a des enfants qui ont du mal à se concentrer, qui sont beaucoup moins patients. Et c'est probablement lié aux écrans qui sont développés. On a une étude récente qui montre que à 6 ans, un enfant passe autant de temps dans l'année devant un écran que dans la classe.
Docteur Mélissa Généreux est médecin conseil à la Direction régionale de santé publique de l'Estrie et aussi professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Elle aussi a des bémols sur tout le temps d'écran qui bouffe l'attention de nos enfants. Docteur Généreux, bonjour.
Bonjour.
Comment vous avez réagi aux propos du premier ministre français?
Ah, écoutez, je l'ai réécouté plusieurs fois. Je me suis dit, ce que j'ai trouvé particulier, c'est comme si on n'était pas sur la même longueur d'onde nos dirigeants qui semblaient être fiers de montrer toutes les avancées technologiques numériques dans les écoles et qui étaient en train de dire, bon, on s'en va même vers un peu plus, puis on a un plan d'évolution, je sais pas trop, numérique. Et de l'autre côté, le premier ministre français qui semblait plutôt dire, non, mais nous, c'est l'inverse, là. Je veux dire, ça fait déjà depuis 2018 qu'on est en action, puis on est très préoccupés. Il est même allé jusqu'à appeler ça une catastrophe sanitaire et éducative. Donc, j'ai senti qu'on avait deux conversations un peu parallèles, mais certainement pas qu'elles allaient dans le même sens.
Ben c'est ça. On lui fait visiter une école qui est branchée. Je veux pas dire que c'est une école tout numérique. Je la connais pas, là, mais 5e et 6e année, on donne un Chromebook qui est pas utilisé tout le temps, semble-t-il. Mais c'est une école très branchée et le PM français dit, ouais, peut-être pas une bonne idée tout ce temps d'écran. Est-ce que, j'aimerais qu'on parle du principe, disons, des écoles, et pas juste au Québec, qui ont adopté le numérique comme si c'était, puisque c'est du progrès, c'est meilleur.
Je m'intéresse beaucoup à ça là, depuis un certain temps, d'essayer de voir d'où est-ce que ça a parti, cette, peut-être pas obsession, mais cet intérêt assez vif pour le numérique dans les écoles. Puis, je sais pas avant 2008, mais en 2008, on a un plan d'éducation, un plan numérique en éducation, pardon, qui justement faisait l'éloge, on voulait devenir des leaders mondiaux en matière de numérique et pour ça, on étant le Québec, et pour ça, notre gouvernement plaidait pour qu'on ait davantage de numérique dans les écoles, qu'on habitue nos jeunes à cette nouvelle réalité-là pour les habituer à leur futur de demain qui forcément va être centré sur le numérique. Donc, le plan vise vraiment à mettre de l'avant plus de numérique et s'en servir pour améliorer les bienfaits que ça peut avoir au niveau pédagogique. Et là, whoops! On dirait que cette année, en 2024, on a plein d'autres évidences qui disent ben, c'est peut-être pas tout à fait ça. Là. Finalement, les jeunes ont peut-être besoin de plus d'équilibre. C'est peut-être pas si bon sur la pédagogie. Donc, il n'y a peut-être pas tant de valeur ajoutée comme on le pensait il y a quelques années de cela.
Justement, Dr. Généreux, parlez aux gens qui nous écoutent de cette synthèse qui a été faite par l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, qui a pris les études disponibles et qui en a fait une synthèse justement sur l'effet des outils numériques en classe chez les 12 à 25 ans. Qu'est-ce que cette synthèse constate?
C'est fascinant. J'étais étonnée qu'on n'en ait pas plus parlé à la parution qui était en février 2024. En gros, ce qu'on dit, c'est que d'avoir un appareil cellulaire, que ce soit fermé ou éteint, c'est pas bon pour la cognition, pour la mémorisation, ça nous distrait. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est à proscrire. Et tout ce qui est prise de notes numériques ou lecture numérique, ils sont assez clairs là-dessus qu'il n'y a pas de valeur ajoutée en termes d'apprentissage scolaire. Toujours des enjeux de compréhension de texte, de mémorisation, des impacts sur la cognition. Ils vont même jusqu'à dire que non seulement il n'y a pas de valeur ajoutée, mais ça vient plus nuire que d'autres choses, si je résume vraiment très grossièrement. Et il se prononce à la fin en disant, on est peut-être rendu à un moment où on devrait reconsidérer les pour et les contre, parce que si les pour étaient pour les aspects pédagogiques, ben finalement, il n'y en a peut-être pas tant que ça là, de bienfaits associés à tout ça.
C'est fascinant, Dr. Généreux, de constater qu'on a un institut de santé publique qui a fait une synthèse et on dirait qu'entre la santé publique et le ministère de l'Éducation, c'est comme s'il y avait un mur de Berlin.
Ben, c'est un peu ce que je me dis, parce que justement, le plan numérique en éducation, ça vient du ministère de l'Éducation. ça date de quelques années, mais quand même, il est terminé en 2023 puis il n'a pas été remis à jour. Donc, on présume jusqu'à preuve du contraire que c'est encore en vigueur. Et c'est ce que la dame a dit au premier ministre français tantôt, là, qu'on est dans un plan d'évolution numérique. Et de l'autre côté, on a le ministère de la Santé qui est quand même assez timidement, là, on entend des propos, on a une stratégie pour les écrans et la santé des jeunes, on veut faire plus de sensibilisation, on a mis sur pied le site Pose ton écran qui fournit plein de conseils et astuces, mais ça demeure encore timide à mon avis, compte tenu de toutes les évidences qui montrent qu'on peut peut-être agir un petit peu plus à la source, là, en amont, notamment à travers là, de tout ce qui se fait en milieu scolaire. Ça ne se limite pas à ça, mais ça serait déjà un bon point de départ.
Là, je regarde dans le rétroviseur, je vous écoute parler, j'ai lu la synthèse de l'INSPQ. Est-ce qu'au ministère de l'Éducation, Dr Généreux, on a implanté le numérique, les écrans, etc., sans se demander si c'était bon?
J'ai vraiment l'impression que nous-mêmes, en tout cas, je pourrais être bien honnête, en 2017-2018, je pense pas que j'aurais été choquée de lire ça. Tu sais, je m'intéressais peut-être moins à la question, mais il faut comprendre que, ben, de mon point de vue professionnel, c'est vraiment parce que je voyais la santé mentale des jeunes qui demeurait de plus en plus affectée malgré la fin de la pandémie. Puis on essayait de chercher qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le tronc commun, qu'est-ce qui peut expliquer le mal de vivre, un peu le mal-être de certains jeunes, même plusieurs. Et c'est là que beaucoup des indices nous ramènent vers la place du numérique qui est tellement présent que ça nuit aux relations sociales, ça nuit à la connexion à l'autre, ça nuit à notre temps pour bouger, développer tes passions. Il y a des enjeux de cyber-intimidation et là, la liste est longue. Donc, bref, je crois qu'une prise de conscience est quand même plus récente et je peux pas juger du fait qu'il y a 5-6 ans, on était tous bien emballés et qu'on voulait devenir des leaders numériques et que pour ça, il fallait éduquer nos jeunes en ce sens. Mais je pense que c'est tout à fait raisonnable de dire que les choses ont changé et qu'on doit s'adapter à la nouvelle situation.
Ceci étant dit, maintenant, comme vous dites, là, on a des données scientifiques. Notre Institut national de santé publique a fait une synthèse, a pris ce qui est disponible dans la science sur le temps d'écran, sur l'impact du numérique, sur l'apprentissage. Puis ce qu'on voit, c'est que ça sert pas à grand-chose.
Ben, c'est en train de servir, c'est ce que je me dis. Mais oui, merci à vous, à toutes les belles chroniques qu'on a pu avoir sur le sujet, à des émissions comme Tout le monde en parle. Mm-hmm. À quelque part, je pense que c'est un peu aussi à ça que ça sert, les médias, qu'on va dire plus classiques, traditionnels, c'est de renommer, de mettre de l'avant les enjeux. Regarde, si c'est ça que ça prenait pour faire valoir le rapport, ben tant mieux, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde qui sont plus au courant que ce rapport-là existe.
En terminant, est-ce que j'ai compris qu'en Suède, il y a une réflexion à savoir si en classe, on ne devrait pas larguer le numérique puis revenir vers le papier-crayon?
Ah, ben c'est plus qu'une réflexion. Vous voyez, eux, ils sont moins allés, si je comprends bien, dans la législation, comme M. Carman proposait, mais plutôt d'y aller vers une revalorisation du livre. Donc, en fait, ils ont été dans les premiers là, à vouloir être des super leaders mondiaux, faire un virage numérique total. Leur objectif, je crois, c'était de n'avoir plus aucun papier dans l'école. Et ils se sont rendus compte que les résultats scolaires en étaient affectés, si bien que là, il y a eu un investissement massif d'argent pour acheter des livres. On remplit, on regarnit les classes, les bibliothèques scolaires de livres et on revient au bon vieux papier. Donc, vous voyez, des fois, c'est pas juste de changer des lois, mais de redonner un attrait à des choses qui peuvent nous paraître un peu traditionnelles, mais qui finalement nous faisaient du bien. C'est juste qu'on s'en rendait pas compte tant qu'on n'en a pas été privé.
Donc, le progrès, c'est pas toujours une amélioration, si je comprends bien.
Pas toujours, non.
Docteur Généreux, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Docteur Mélissa Généreux, spécialiste en santé publique rattachée à l'Université de Sherbrooke.
Le menu du midi. Votre émission d'information.
Pourquoi on prendrait pas cette année-là de secondaire 1 de révision, puis qu'on ferait pas de la matière vue normalement en secondaire 2, puis juste décaler, puis comme ça, on pourrait garder nos 50 secondaires, puis passer directement à l'université.
On pensait que ça serait le fun, Facebook. Puis on se lance là-dedans sans trop réfléchir. Puis là, après, on s'aperçoit que sur Facebook, il y a de l'intimidation, il y a de la fraude, il y a des disputes, il y a des complots. C'était le fun, Facebook, au début, hein? Ben là, ça l'a encore, mais ça l'est un peu moins.
Le meilleur russe du repêchage, Ivan Demidov, son contrat dans la KHL vient à échéance en 24.
85.
Okay, ça
donc, l'été
bien.
Prochain. Donc, c'est comme si on repêchait un joueur de la Ligue canadienne de hockey. Mettons que le Canadien repêchait Caden Lidstrom et qu'on le retournait dans les juniors, ben, il serait pas disponible avant la saison 25-26.
Okay.
C'est la même chose pour Ivan Demidov. Puis, en plus, il a exprimé son désir de venir jouer en Amérique du Nord. Ça restera pas effoiré à la maison. À la TV.
C'est à ça que tu
pensais,
là.
Du lundi au vendredi dès midi.
Sortez les vélos de vos cabanons. Le plus vieux vélo bazar au Québec s'en vient. Des vélos pour toutes les bourses. Des trésors à découvrir. Au pavillon polyvalent 313 Avenue de la Cathédrale Rimouski. Samedi 4 mai de 10 à 15 heures. La journée des vendeurs. Apportez vos vélos fonctionnels à vendre ou à donner. Dimanche 5 mai. La journée des acheteurs. 9 heures. Distribution des billets de priorité. 10 heures. Entrée des détenteurs de billets de priorité. 11 heures. Ouverture pour tous. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur la page Facebook de Rimouski Ville Cyclable.
Le club de golf du Vic propose une nouvelle tarification dynamique et des prix à la baisse. Notamment un rabais de près de 300$ sur un abonnement de saison pour les actionnaires qui font un retour. Réputé comme l'un des plus beaux au Québec, le parcours Bicois répond aux attentes les plus exigeantes. Voiturettes, boutiques, restauration et bars sont au nombre des services offerts. Le Vic, une passion qui s'exprime dans un décor enchanteur depuis 92 ans. Plus d'infos au www.clubdegolfvic.com.
Bonjour, ici Gilles Blaquer, directeur des Grands Amis de Rimouski. Le 20 avril prochain se tiendra au Centre des congrès de Rimouski le rendez-vous de l'action bénévole. Cette journée présentée sous forme de salon accueillera plus de 45 organismes communautaires. Venez rencontrer ces gens de cœur afin d'apprendre davantage sur le service et leurs missions respectives. Car s'impliquer dans sa communauté, c'est aussi se faire du bien à soi-même. De plus, Jean-Marie Lapointe sera des nôtres avec sa conférence « Le plaisir de bénévoler ». Alors, c'est un rendez-vous le 20 avril prochain de midi à 17h et c'est gratuit.
Êtes-vous incommodé par votre vision ou vos lunettes? Avez-vous pensé à faire opérer vos cataractes ou votre presbytie? Vous avez déjà des lentilles intraoculaires et désirez une amélioration réfractive? Au Centre ophtalmologique de l'Estuaire, nous offrons différentes solutions visuelles, telles l'implantation de lentilles intraoculaires ou la chirurgie au laser. Appelez au 418-723-2016 pour une évaluation avec ou sans référence. Institut médico-esthétique et chirurgical de l'Estuaire, 748 boulevard Saint-Germain, Rimouski.
Pour avoir chaud, même en hiver, découvrez la nouvelle application Sensation Plus. Téléchargez-la maintenant sur Apple ou Android pour ajouter du piquant à votre quotidien. Livraison rapide et discrète. Sensationplus.com. Partagez le plaisir.
CFIX 93.3 diffuse également à Rivière-du-Loup à la fréquence 103,1.
Le Québec maintenant.
Ça, c'est le son qu'on entend quand on dort les fenêtres ouvertes et, je dois dire, de plus en plus tôt. Salut, Maude.
Salut, Pat.
Est-ce que t'aimes ça te faire réveiller à 4h30 du matin, 5h moins quart par le bruit des oiseaux?
Oui, j'aime ça. Ben, en fait, j'aime ça dormir la fenêtre ouverte. Okay. C'est ça que j'ai réalisé.
Moi, j'aime ça dormir puis ça me réveille.
J'ai réalisé qu'on n'ouvrait plus nos fenêtres. Puis là, quand je les ai ouvertes cette semaine, puis qu'il faisait très froid dans la chambre, je me disais, mon Dieu, c'est comme une libération. Ça, c'est comme enlever ses bas, se promener en sandales, ou marcher pieds nus dans le gazon, ou rouler avec une voiture avec le toit ouvrant. Tu comprends? Il y a quelque chose de... C'est satisfaisant.
Quelque chose de naturel.
Ouais. Mais c'est quelque chose de le fun, puis on ne le fait plus. Puis je me suis demandé, mais est-ce que c'est bon? Parce que moi, je vis en ville, comme toi. Puis je me disais, ben est-ce que le fait d'ouvrir nos fenêtres, est-ce que ça a-tu vraiment un effet positif ou c'est un effet psychologique? Je me disais, mon Dieu, il me semble que je dors mieux quand la fenêtre est ouverte. Puis moi, tu vois, les petits oiseaux, j'aime ça.
Ben, regarde, je niaisais là, avec l'histoire des oiseaux qui te réveillent. Des fois, s'ils me réveillent, je ferme la fenêtre. C'est juste que c'est assez paisible dans le quartier où j'habite, sauf que il y a quand même toujours un bruit de fond en ville. Il y a toujours, à un moment donné, il y a une auto qui passe, à un moment donné, il y a un ivrogne qui passe. Fait qu'à 2h du matin, ça me tente un peu moins, fait que je finis par la fermer. Mais est-ce qu'on sait si c'est bon de dormir la fenêtre ouverte en ville?
Ben, j'ai posé justement la question à deux pneumologues, je me suis entretenue avec elles, Chantal Lafont et Isabelle Coman, deux pneumologues spécialisés, là, une en asthme sévère, l'autre en santé respiratoire à Sacré-Cœur. Fait que super conversation super intéressante. Et c'est pas si clair que ça, dans le sens que la clé pour gérer dans le fond le taux d'humidité dans la maison, c'est justement la clé en fait pour pas avoir trop d'acariens ou d'allergènes. Donc ça dépend dans le fond, est-ce que l'air dans ta maison est assez pur, c'est ça la question en fait. Parce que si tu ouvres la fenêtre, mais que tu vis en ville, qu'il y a plein de particules, qu'il y a un chantier, qu'il y a des feux de forêt, qu'il y a des allergènes, ben tu vas les faire rentrer chez toi. Fait que c'est faux de penser que parce qu'on ouvre les fenêtres, c'est une bonne idée. Moi, c'est, je partais avec ça. Je me disais, pour les acariens, c'est
bon.
Mais c'est ça. Mais d'abord, la clé, donc, c'est le taux d'humidité. Parce que les acariens, ils se multiplient quand il y a un taux d'humidité de plus de 70 %, soit 80 % et une température de 24 degrés Celsius dans ta chambre. Là, ça va se multiplier. Puis les acariens, ça cause plein d'affaires, des maux de gorge. Tu sais, quand tu peux peut-être faire de l'apnée du sommeil, tu vas peut-être le développer encore plus. Donc, il faut que tu contrôles ça. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est en ouvrant la fenêtre. Il faut nettoyer notre matelas avec un aspirateur et notre oreiller une fois par semaine.
L'oreiller aussi.
À l'aspirateur. Moi, j'en revenais pas. Je dis, ben voyons, il n'y a personne qui fait ça.
Je vais prendre le balai de l'aspirateur et je vais passer ça sur mon oreiller.
Encore.